Reprise des négociations autour de Manuel Valls. Avant ce nouveau rendez-vous politique, le ministre des Outre-mer s'est rendu ce matin au lycée La Pérouse. Comme tous les lundis, dans ce journal, vous retrouverez la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Se familiariser avec l'informatique et mieux connaître les métiers de la filière, la semaine du numérique débute aujourd'hui dans les établissements publics du secondaire. En métropole, Marine Le Pen attend dans quelques heures la décision de justice dans l'affaire des parlementaires du Rassemblement national. Elle est menacée d'inéligibilité avec exécution provisoire. Et puis à l'étranger, Donald Trump en colère contre Vladimir Poutine. Il accuse le président russe de freiner la recherche d'un cessez-le-feu et menace de taxer le pétrole russe si les choses n'avancent pas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Nous prendrons notamment connaissance des derniers résultats de la 27e journée de Ligue 1 de football.
Et notamment les Nantais dans le dur jusqu'au bout. Le club d'Antoine Comboiré pouvait se donner une bouffée d'oxygène sur le terrain du Havre, 16e du classement. Oui, mais les Canaries ont manqué le coche, s'inclinant 3 buts à 2 pour voir désormais la zone rouge se rapprocher. Nantes n'est plus qu'à 3 points de la place de barragiste.
La MotoGP avec le Grand Prix des Amériques et la première victoire de la saison de Francesco Bagnaia.
Et surtout la chute de Marc Marquez qui le fait tomber de la place de leader du classement mondial. Malgré sa domination depuis le début de la saison, déjà 2 victoires, et alors qu'il allait faire une nouvelle razzia au Texas, l'Espagnol a chuté, a dû abandonner, laissant donc la victoire à Pecco Bagnaia et la tête du championnat du monde à son frère Alex. Les cartes sont rebattues après cette troisième manche du championnat du monde.
Dans l'actu sport en Calédonie, notre invité sera ce midi Christophe Dabin, le président du CTOS.
Et pour évoquer l'échéance prévue à Palau du 29 juin au 7 juillet prochain, les mini-jeux du Pacifique, le CTOS qui a déjà annoncé que la délégation calédonienne sera fortement réduite, étant donné les difficultés financières qui touchent le territoire. Seulement 6 disciplines sur 11, seulement 40% du budget prévu qui a été alloué aux sportifs. Nous verrons tout ça en détail avec le président du comité territorial olympique et sportif.
On se retrouve donc pour le MAC des sports dès la fin de ce journal. Manuel Valls a repris les négociations au Haut-Commissariat. Elles se déroulent en séance plénière alors que tout le week-end, les bilatérales se sont succédées entre le ministre des Outre-mer et les délégations des groupes politiques. Dès l'ouverture des discussions, il avait appelé les partenaires calédoniens à faire un pas décisif vers un compromis global, à faire preuve d'audace et à se hisser à la hauteur de ce moment décisif et historique. Et hier, il a remis aux délégations un document qui est un projet d'accord sur l'avenir institutionnel. C'est ce qui doit servir de base aux discussions qui auront lieu aujourd'hui et demain. Hier soir, lors d'un échange avec la société civile à l'UNC, Manuel Valls a martelé la nécessité d'aboutir à un accord.
La seule chose que je puisse vous dire est la suivante. C'est qu'il faut construire ou reconstruire. Je vous passe sur les mots. Notre responsabilité pour le moment, parce que je ne sais pas combien ça va durer, c'est assez précaire, hein, le poste de ministre aujourd'hui à Paris, c'est d'aider à ce que les Calédoniens prennent leur destin en main. Je suis sûr qu'ici, il y a une force incroyable dans la société calédonienne. Prenez aussi votre destin en main. Je sais que c'est facile à dire, beaucoup le font à travers les associations, l'engagement, mais faites-le, bousculez, c'est le moment de bouger. Moi, je fais passer les messages, j'essaie de faire bouger les élus, mais je ne veux pas casser les possibilités d'un accord. Il y a l'espoir qui est revenu, hein. Les gens se sont parlé, vous vous rendez compte, les élus se sont parlé, c'est déjà un miracle, mais il en faut un deuxième, c'est l'accord. Poussez pour qu'il y ait un accord.
Dans la matinée, le ministre a donc repris les négociations avec l'ensemble des groupes politiques, des discussions qui doivent se poursuivre jusqu'à demain. En principe, Manuel Valls doit quitter la Calédonie demain soir à 22h. Le ministre des Outre-mer, qui a rencontré la jeunesse calédonienne ce matin, avant de reprendre les négociations, il s'est en effet rendu au lycée La Pérouse et il a notamment pris le temps d'échanger Léana Colombo avec les élèves d'une classe de terminale.
Oui, c'est avec l'hymne calédonien chanté main dans la main par les lycéens que Manuel Valls a été accueilli. Un moment de partage suivi de la traditionnelle coutume au cours de laquelle le ministre a rappelé que le destin commun était possible. Nous tentons de rétablir le dialogue afin de préparer l'avenir pour vous, a-t-il notamment déclaré. Des propos qu'il a tenu à appuyer en offrant une reproduction d'un tableau de Picasso évoquant la paix. Les lycéens ont quant à eux offert au ministre une toile réalisée par une élève de terminale représentant le vivre ensemble. Et c'est pour ce vivre ensemble que Manuel Valls rappelle l'importance de trouver un accord.
Tout ce que nous faisons ici, c'est-à-dire trouver un accord pour instaurer définitivement la paix civile et pour préparer l'avenir de la Calédonie, c'est pour la jeunesse. Ce sont des jeunes qui viennent de connaître la violence. Eh bien, ils cherchent à surmonter ces différences et à dépasser tout esprit de revanche, de haine ou de violence pour construire une société commune. C'est pas facile, faut pas être naïf, mais c'est ce message-là que je vais retransmettre aux élus aussi. Chacun, maintenant, doit prendre toutes ses responsabilités et être conséquent. Moi, je souhaite un accord. pas pour moi. Je souhaite un accord pour la Nouvelle-Calédonie et pour ces jeunes. Chacun sera comptable devant la population calédonienne. Donc faisons l'effort collectif, quelles que soient nos opinions, et le gouvernement s'y implique, vous le voyez avec ma présence, pour trouver cet accord.
Calice et Axel faisaient partie des lycéens sélectionnés pour cet échange avec le ministre des Outre-mer. Comme les autres, elles ont pu témoigner de leur vécu des émeutes de l'année dernière et ont parlé de l'avenir. Elles évoquent une rencontre enrichissante.
Sincèrement, en fait, ça crée un lien entre lui et nous. Et c'est aussi hyper important qu'ils sachent comment on a vécu ce qui s'est passé pendant les émeutes, qu'ils sachent qu'on est des humains et que, en fait, on transmet un message de « on est tous dans la même galère ». On est tous d'ethnies différentes, etc. On a tous vécu des choses difficiles. Et pourtant, en fait, on est là et on est tous ensemble en train de demander la même chose, en fait, d'être tous unis. Et c'est ça qui est super important. Et je pense qu'il a compris ce qu'on voulait lui dire et le message qu'on voulait transmettre.
J'ai vu qu'il était vraiment investi dans ce qu'il disait, qu'il voulait vraiment trouver une solution, qu'il voulait qu'on s'en sorte tous ensemble, main dans la main. Et j'espère qu'il va pouvoir réaliser ses beaux projets.
L'attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour la jeunesse a également été abordée avec Manuel Valls durant cet échange de près de trois quarts d'heure. Le ministre qui, lors de son dernier séjour sur le territoire, avait déjà rencontré des jeunes, mais cette fois-ci du lycée Michel Rocard à Pointe-Bout.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Selon vous, Manuel Valls va-t-il, comme il le souhaite, obtenir un compromis global d'ici mardi? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. À 11h37, pour poursuivre ce journal, on va tout de suite retrouver le rendez-vous du lundi. C'est bien sûr la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Le vote de Velma Falayo, s'il eût été différent, tout l'avenir de la Nouvelle-Calédonie aurait été changé. Bon, la référence à Blaise Pascal et à son aide Cléopâtre est un peu exagérée, mais tout de même. Les élus du Congrès ont vécu un véritable ascenseur émotionnel vendredi, lors d'une longue séance émaillée de très longues suspensions. On l'avait dit avant, sans convention, pas de prêt de l'État, et sans prêt, pas de budget. L'enjeu était donc de taille, et d'autant plus à la veille de l'arrivée de Manuel Valls. Mais ce n'était pas gagné, et deux élus ont joué avec les nerfs de leurs collègues. Le maire de Dimbéa qui, pour d'obscures raisons, a choisi de s'abstenir alors que tous les partisans de la France ont voté pour le budget, et le président de la province Nord qui a oublié, on se demande pourquoi, de donner une procuration alors que l'ensemble des indépendantistes ont voté contre. On s'est donc retrouvé avec 25 voix pour, 25 voix contre et 3 abstentions, et c'est la voix prépondérante de la présidente du Congrès qui a fait la différence et permis l'adoption du budget 2025. Une situation d'autant plus surréaliste que les autres élus de l'éveil océanien s'étaient abstenus. Surréaliste aussi, mais on y est habitué, la position de Calédonie Ensemble, qui a voté pour le budget, mais qui, à entendre Philippe Gomès, s'est ainsi rendu complice de ce qu'il dénonce avec sa virulence habituelle comme un scandale d'État. Ces incohérences sont parfois difficiles à suivre, mais cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé lors de l'épisode du pacte Nickel, il n'a pas osé franchir le Rubicon. Le budget est donc adopté, et le ministre des Outre-mer a pu signer dès son arrivée le prêt garanti par l'État qui devrait, quoi qu'en disent ses détracteurs, apporter une véritable bouffée d'oxygène à la Nouvelle-Calédonie. Mais après, Manuel Valls s'est quasiment enfermé au commissariat et rien ne filtre des négociations intensives qu'il mène depuis samedi avec l'ensemble des partenaires calédoniens. Ce sont bien de véritables négociations, a prévenu le ministre des Outre-mer, et il a manifestement intimé la discrétion et le silence aux différents participants. On sait seulement qu'il leur a distribué un document top secret, qui n'est rien moins qu'un projet d'accord politique sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ce qui prouve son ambition, parce qu'il le dit lui-même, il est difficile de trouver une voie commune. Le ministre des Outre-mer parle même d'un moment historique qui n'offre qu'une seule issue acceptable, celle d'un compromis ou d'un accord politique, et il énumère les principes sur lesquels repose la démarche qu'il propose, des principes qui sont au nombre de 12, ce qui fait beaucoup. Et c'est un véritable numéro d'équilibrisme que se livre Manuel Valls pour que chacun puisse s'y retrouver. Il nous ressort ainsi Nainville-les-Roches. Il parle de peuple de la Nouvelle-Calédonie, souverain quant à son destin. Mais il reconnaît le résultat des 3 référendums, en relevant seulement la forte abstention des Kanaks. Il parle de la gravité des violences de mai 2024, mais elles sont selon lui révélatrices de profondes fractures. Tout est à l'avenant pour que personne ne trouve un prétexte à claquer la porte, ce qui serait pour lui un véritable échec. Il précise aussi que ce travail exige un changement de regard, qu'il impose de dépasser les postures, de sortir des calculs de court terme et de s'élever à la hauteur d'un projet historique. On le sait, Manuel Valls a une obligation de réussir ses négociations. C'est sa réputation et son avenir politique qui sont aussi en jeu. D'où son insistance pour aboutir et arriver à un compromis global. Et pour l'encourager, on peut lui rappeler ce célèbre aphorisme. Un compromis, c'est l'art de couper un gâteau de telle manière que chacun pense avoir la plus grosse part.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, elle est disponible sur notre site internet en réécoute. Vous pouvez aussi la réentendre cet après-midi, c'est juste après notre flash de 16h comme tous les lundis. En attendant, il est 11h41, on va marquer une pause et on se retrouve pour dérouler le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Les faits divers, en bref, avec d'abord ce début d'incendie sur le site de la société Le Froid à Montravel. Ce matin, les pompiers de Nouméa sont intervenus rapidement pour éteindre les flammes dans les décombres de l'usine déjà ravagée en mai 2024. Des individus ont pénétré dans les ruines du site pour allumer un feu de détritus. Les flammes se sont répandues sur une vingtaine de mètres carrés. Aux environs de 9h, le feu a pu être maîtrisé sans provoquer de gêne pour le quartier, notamment l'école primaire Gustave Mouchet, où les enfants auraient pu être incommodés par les fumées si l'incendie avait pris de l'ampleur. Les pompiers de Nouméa ont mobilisé 6 véhicules ainsi qu'une vingtaine d'hommes pour procéder rapidement à l'extinction de ce début d'incendie dont l'origine malveillante ne fait aucun doute. Et puis un homme toujours activement recherché à la fois. Cet individu d'une vingtaine d'années s'est évadé hier, menotté de la gendarmerie de la Foix alors qu'il avait été interpellé la veille à Canala par les forces de l'ordre. Il participait à une fête qui a dégénéré. Les gendarmes sont intervenus et ont subi des jets de pierre et c'est là qu'ils ont procédé à 5 interpellations. Après plusieurs heures de garde à vue, l'un d'entre eux, qui ne serait pas dangereux selon les forces de l'ordre, a donc réussi à échapper à la surveillance des gendarmes et à s'enfuir. De nombreux moyens ont été engagés pour le retrouver et les forces de l'ordre lancent un appel à témoins. Si vous avez la moindre information sur cet évadé, un homme d'une vingtaine d'années menotté et qui porte un t-shirt bleu, vous pouvez contacter la gendarmerie de la Foix au 44 87 50, le 44 87 50 ou en appelant le 44 87 50, pardon.
À Radio Rythme Bleu, il est 11h43.
Le recensement en question ce matin avec notre invité à 7h30 sur Radio Rythme Bleu, c'est Jean-Philippe Groutier, chargé de mission recensement à l'INSEE et dans le cadre du recensement de la population en Nouvelle-Calédonie. Il est venu nous parler de ce recensement. C'est l'INSEE qui en est le maître d'œuvre et l'ISEE le maître d'ouvrage, Léana Colombo.
Le recensement qui aurait dû se dérouler l'an dernier a été repoussé après les émeutes insurrectionnelles débutées en mai 2024. Et c'est donc finalement entre le 22 avril et le 22 mai qu'aura lieu le recensement. Un recensement qui a deux objectifs, rappelé ce matin Jean-Philippe Groutier.
1. Établir les populations de référence, donc les populations légales des communes, des provinces, du territoire. Et puis par ailleurs, à faire une photo de la Nouvelle-Calédonie, de façon à ce que, je dirais, aussi bien les acteurs publics que les acteurs privés puissent prendre un certain nombre de décisions en connaissance de cause. Bien évidemment, nous statisticiens, on est parfaitement neutres. On ne prend pas part à la décision, même pas au Conseil. En revanche, je me souviens d'un ministre dans les années 90 nous disant « Votre rôle, c'est que personne ne puisse dire « Je ne savais pas ».
On aura, bon, bien évidemment, toutes les données sur les structures parages, ce qui est essentiel. Est-ce qu'il y a, dans les années à venir, des besoins en équipement de la petite enfance, des besoins en équipement pour plutôt pour les personnes âgées, etc. On a des informations sur l'emploi, sur le niveau de formation de la population, sur les mouvements migratoires. Donc on pourra voir comment les mouvements de population se sont passés depuis 5 ans.
Entre le 22 avril et le 22 mai, c'est donc toute une série de questions qui sera posée à la population par les agents recenseurs qui devront visiter tous les foyers de Nouvelle-Calédonie. Et cette année encore, il y aura la question qui avait fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années, la question concernant le ressenti des uns et des autres sur l'appartenance calédonienne.
Cette question est dans le recensement, c'est bien du ressenti. Il ne s'agit pas d'un référentiel ethno-racial, ce que la statistique française s'est toujours interdit de faire. Quelqu'un arrivé il y a un mois en Nouvelle-Calédonie peut très bien nous répondre oui à la question « est-ce que vous vous sentez calédonien ?» Quelqu'un arrivé depuis 50 ans peut très bien répondre non. Et là, dans la formation des agents censeurs, on insiste fortement sur la parfaite neutralité et le fait qu'ils notent ce que les gens disent sans aucun jugement de valeur sur ce qu'ils racontent.
Pour ce recensement 2025, c'est une très grosse machine qui va se mettre en place. Pendant un mois, 800 agents recenseurs sillonneront la Nouvelle-Calédonie pour collecter des données. Une collecte qui donnera lieu ensuite à plusieurs publications officielles.
On a deux publications. Donc, vers le 20 juillet, on publie le nombre d'habitants et les populations légales, par commune, par province, etc. Dans un deuxième temps, tous les documents, tous les questionnaires vont passer en lecture optique, être codés, et les données, la pyramide des âges, les données par rapport à l'emploi, les données sur les mouvements migratoires, tout ça, ça sera publié plutôt en fin d'année. On met en accès libre et gratuit tout ce qu'on peut, avec comme seule limite le respect, bien évidemment, absolu du secret statistique et de l'anonymat des données.
Jean-Philippe Groutier, chargé de mission recensement à l'INSEE, invité du matin sur RRB, une interview à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc.
Place au numérique dans les établissements publics du secondaire. La semaine du numérique éducatif revient pour une 5e édition cette année et de nombreux ateliers et conférences sont organisés dès aujourd'hui, Charlotte Coulson.
Qu'est-ce que la cybersécurité? Quelles sont les innovations en matière de robotique? Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Autant de thématiques qui sont abordées au cours de cette semaine éducative. En tout, près d'une quarantaine d'ateliers sont programmés. Ils devraient toucher environ 1500 élèves et personnel éducatif. Christelle Isaac est déléguée académique au numérique éducatif pour le vice-rectorat qui organise cet événement.
Alors, la semaine du numérique a plusieurs objectifs. Le premier étant renforcer les compétences numériques des personnels et des élèves dans tous les établissements scolaires publics du second degré. Le deuxième objectif, c'est de présenter les métiers et de préparer l'orientation des jeunes et de leur faire comprendre que les métiers du numérique, c'est aussi possible pour eux. Et notamment parce que le territoire aussi a besoin, voilà, de compétences en numérique. Donc, il y a dans l'avenir, beaucoup de métiers qui seront possibles sur le territoire. Cette année, l'UNC, le Cluster Open et le gouvernement se sont associés au vice-rectorat et nous avons pu proposer beaucoup plus d'activités, beaucoup plus d'intervenants pour enrichir l'offre dans les établissements.
Et parmi les activités au programme, des conférences, mais aussi des ateliers un peu plus ludiques. Ce matin, les élèves du collège Francis Carco à Dimbéa ont pu s'approprier certains concepts informatiques, comme les algorithmes ou la numération binaire, à travers des activités manuelles, tandis que d'autres ont pu assister à une conférence sur les métiers du numérique.
On a fait des activités, des transmissions de pensée. Ça consiste en fait, quand une personne choisit une image, il ne faut pas qu'elle dise à celui qui va transmettre la pensée.
Alors, est-ce que vous voyez votre image dans cette ligne?
Oui.
Dans cette ligne-là?
Non.
Et ensuite, dans celle-là en bas?
Oui.
Du coup, ça fait 16. 16 plus 4, 20, 21. C'était celle-là que vous avez
oui,
choisi?
Oui, c'était ça.
En fait, ben, c'est de la numération binaire. C'est la numération que les ordinateurs ils utilisent.
Oui, c'est intéressant parce que le monde de demain, il est informatique. Du coup, c'est intéressant d'avoir des connaissances sur tout ce qui est numérique, informatique.
L'atelier, c'était sur la semaine du numérique. En gros, il nous a expliqué ce qu'il y avait en métier du numérique, sur la cybersécurité. Je ne connaissais pas du tout. Je vais peut-être m'intéresser à ça, puis en faire mon métier.
Ça nous donne envie de faire quelque chose par rapport à tout ce qui est numérique, tout ce qui est robotique, jeux, tout ça. Et vraiment, il y en a que ça motive et c'est vraiment bien.
Et la semaine du numérique s'adresse aussi aux étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Une conférence sera d'ailleurs proposée ce soir à 18h sur les formations et les métiers du secteur.
Dans le reste de l'actualité en Calédonie, en bref, depuis plusieurs mois déjà, en raison de manque d'effectifs infirmiers et médicaux, l'offre de soins au centre hospitalier du Nord doit être régulièrement réorganisée. Ainsi, pour la période du 31 mars au 30 avril, la direction du CHN indique qu'à Koumac, le service des urgences restera fermé, mais que les consultations externes réouvriront du lundi au vendredi sur rendez-vous. À Poindimier, le service des urgences restera fermé et les consultations externes seront assurées sur rendez-vous du lundi au vendredi. Enfin, à Connay, les urgences sont ouvertes 24 heures sur 24. Les soins externes, l'hôpital de jour pour les chimiothérapies ainsi que les consultations et la maternité resteront ouverts durant cette période. Et puis, autre information pratique, le prix des carburants continue d'augmenter au mois d'avril. À partir de ce soir minuit, le litre d'essence grimpe de 2,81 francs pour afficher 167 francs le litre. Le gasoil, quant à lui, augmente de 60 centimes et affichera 148,90 francs le litre à partir de ce soir minuit. Il est 11h50, on va terminer ce journal par une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde avant d'ouvrir notre mag des sports du lundi.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Papa, maman, c'est le moment de vous faire plaisir avec le grand jeu Huggies. À gagner un siège auto, une poussette, un parc pour bébé et un baby cook. 4 gagnants, 4 super cadeaux. Alors prêt à tenter votre chance? Pour jouer, rendez-vous dans l'un des magasins participants. Plus d'infos sur la page Facebook, le 4. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Citrita.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Et le visage politique de la France suspendu à une décision de justice. Dans quelques heures, le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision sur l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement National. Affaire dans laquelle Marine Le Pen risque 5 ans de prison, 300 000 euros d'amende, c'est-à-dire 36 millions de francs, et surtout une peine d'inéligibilité de 5 ans qui la mettrait hors jeu de la course à la présidentielle prévue en 2027, puisque la peine pourrait être assortie d'une exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate. Ce qui serait considéré comme un séisme politique, d'autant qu'un sondage IFOP pour le JDD donne Marine Le Pen largement en tête des intentions de vote au premier tour des prochaines présidentielles. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Merci au RN, personne n'ose vraiment croire à une condamnation à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Ce sondage vient conforter l'idée du parti qu'il s'agirait alors d'une décision politique rendue par les magistrats. Dans cette étude, Marine Le Pen y devance en effet de très loin ses principaux concurrents. Elle oscille entre 34 et 36% des intentions de vote face à Édouard Philippe et culmine à 37% en cas de candidature de Gabriel Attal. Les deux candidats du bloc central sont donnés entre 20 et 25% en fonction des hypothèses testées. Reste à savoir si ce sondage aura un impact sur le délibéré des juges. Dans l'entourage de Marine Le Pen, l'on refuse d'anticiper le pire des scénarios. Celui-ci serait perçu comme un véritable coup de force démocratique et rien n'a été réellement préparé si cette hypothèse devenait réalité. La triple candidate à la présidentielle et ses proches sont donc suspendus à la bonne volonté des juges, dont ils espèrent, à défaut de clémence, la prise en compte des conséquences démocratiques que leur décision pourrait provoquer.
Et le sondage de l'IFOP pour le JDD montre que Marine Le Pen pourrait atteindre jusqu'à 37% d'ascension de vote au premier tour de la présidentielle. C'est 10 points de plus qu'au précédent scrutin présidentiel. Frédéric Dabi est directeur général opinion de l'IFOP.
Effectivement, on voit que c'est le premier cliffhanger, comme on dit dans les séries américaines, ou premier rebondissement très important de cette pré-campagne présidentielle. Effectivement, l'enquête IFOP pour le JDD donne une Marine Le Pen à un niveau très élevé, hein, avec 10 points de plus que serait son score de la dernière élection présidentielle, encore plus que le score du RN au premier tour des élections législatives, des scores présidentiels qui se rapprochent de ceux de Mitterrand en 1988, qui avait fait 34,5%. Effectivement, une élimination, une sortie du jeu de Marine Le Pen, toute proportion gardée, ça n'a rien à voir, ça rappellerait 2011, Dominique Strauss-Kahn, du jour au lendemain, qui est éliminé automatiquement de la course.
Frédéric Dabi, le directeur général opinion de l'IFOP. L'actualité en métropole, c'est aussi l'ouverture du procès de Mohamed Medjoub, cet Algérien sans papier de 29 ans, comparé devant la cour d'assises spéciale de Paris. En mai 2019, il avait fait exploser une bombe devant une boulangerie d'une rue piétonne à Lyon, faisant 10 victimes. Noémie Loisel pour Europe 1.
Le 24 mai 2019, il est 17h30 lorsqu'une bombe explose devant une boulangerie dans la rue Victor Hugo, une rue piétonne, commerçante et très fréquentée. La bombe artisanale, dissimulée dans un sac en papier, contenait du TATP, un explosif prisé des groupes djihadistes. L'explosion blesse une dizaine de personnes, dont une fillette de 10 ans. Yves Hartmann, avocat, représente deux gérantes âgées d'une cinquantaine d'années dont les commerces se trouvaient près de la boulangerie. Pour elles, ce procès représente une étape dans leur reconstruction.
Elles ont accueilli les blessés physiques, elles étaient présentes, elles ont entendu l'explosion. Aujourd'hui, elles sont encouragées
stressés à chaque fois qu'il y a une situation qui peut leur rappeler cet événement. C'est d'une telle violence que les victimes sont systématiquement rattrapées par un traumatisme important. Ça fait partie de la reconstruction effectivement des victimes, même si c'est toujours très douloureux, mais je pense que elles en ont véritablement besoin.
L'accusé a expliqué que son but était de faire peur aux Français pour les pousser à voter pour l'extrême droite, ce qui selon lui exacerberait les tensions avec les musulmans et provoquerait une guerre civile en France. Aux enquêteurs, il dit avoir prêté allégeance au groupe État islamique. À ce procès, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Radio Rythme Bleu.
Non, c'est pas l'heure d'opinion, c'est de l'heure de passer à l'actualité à l'étranger. Et Donald Trump se fâche, il est furieux contre le président russe Vladimir Poutine, qui l'accuse de ne rien faire pour conclure un cessez-le-feu en Ukraine. Et dans une interview sur la chaîne américaine NBC News, il a même brandi la menace d'une augmentation des taxes sur le pétrole russe. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Alors que les relations semblaient être au beau fixe avec Vladimir Poutine, Donald Trump change son fusil d'épaule de façon spectaculaire. Furieux contre le chef du Kremlin, il l'accuse de faire volontairement échouer ses tentatives de trêve en Ukraine. Si nous ne sommes pas capables d'arriver à un accord, je vais imposer des droits de douane secondaires sur tout le pétrole qui sort de Russie, menace Donald Trump. Une colère qui reflète un sentiment de trahison pour le président américain, comme l'explique le géopolitologue Frédéric Ancel, auteur du livre « La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu ».
Ce qui ressort, c'est la colère de quelqu'un dont l'ego est blessé. Ça fait quand même plusieurs mois que Trump promet un cessez-le-feu. Et non seulement ça traîne, mais M. Poutine n'a pas donné suffisamment de volonté d'accepter ce cessez-le-feu à court terme. Donc tant que Poutine donnera le sentiment de le faire patienter, d'ergoter, Trump sera extrêmement en colère.
Si les négociations n'avancent pas rapidement, Donald Trump promet une hausse des droits de douane de 25% avec la Russie dans les prochains jours. Reste à savoir si ces menaces directes des États-Unis feront plier Vladimir Poutine, qui n'a pour l'heure pas réagi aux accusations de Donald Trump.